dire de marcher dans le bien pour éviter de vous faire du mal. Et quelque part, ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens de ce qu'Antoine a partagé ce matin. Ces oppressions, elles sont là pour dire que si vous en avez dans votre vie, vous devez faire cette démarche de dire « Seigneur, moi je ne les veux plus ces oppressions. Je ne les veux plus, j'en ai pas besoin. Elles ne sont pas là pour me faire grandir. » Alors ça peut être de l'épreuve, bien sûr. Ça peut être de l'épreuve. Et l'épreuve, Dieu va faire en sorte que cette épreuve puisse vous faire grandir. Mais l'oppression n'est pas bonne. L'épreuve, elle est bonne, même si c'est difficile à vivre. Mais l'oppression, cette inquiétude que l'on a dans nous, dans nos tripes, c'est même pas dans le cœur, c'est là, c'est dans l'estomac. Eh bien, elle n'est pas là pour vous faire du bien. Donc si ce matin, vous avez une oppression, et je pense qu'on aura l'occasion de prier pour ça à la fin de mon prêche, je voudrais que vous ayez la possibilité, l'opportunité, chacun ici, de pouvoir faire un pas de foi et de pouvoir vous avancer pour que l'on puisse prier pour vos oppressions. Si vous avez des oppressions, il faut qu'elles soient sorties de là et qu'en sortant de l'église, vous n'ayez plus ces oppressions. Est-ce que vous avez envie de ça? Ouais? Pierre? Donc le thème de mon prêche ce matin, marche dans le bien pour ne pas te faire de mal. Pourquoi j'ai ce thème-là? Pourquoi j'ai le fait de dire marche dans le bien pour ne pas te faire de mal? C'est une lapalissade, c'est tout ce que vous voulez, c'est un peu pompeux, c'est bateau, c'est tout ce que vous voulez. C'est un titre qui est tellement classique, mais quelque part, il est tellement vrai. Pourquoi j'ai ce thème-là? C'est parce que moi aussi, j'ai eu une semaine difficile. J'ai eu des oppressions, j'ai de la fatigue, voilà. Mais on a tous des semaines difficiles. On a tous un lundi matin où on doit se lever pour aller travailler, un vendredi soir, un samedi, un dimanche. Moi, si vous me voyez ce matin, on est venu me voir, on m'a dit « Bah Fred, t'es élégant ce matin ?» Bon, ça fait plaisir, merci. Bon, c'est juste parce qu'après, je pars à Amiens et je travaille ce week-end. Voilà. Mais c'est... Donc la semaine, pour moi, elle est continue. Elle est continue. Mais il faut qu'on puisse continuer à se faire du bien. Et en fait, dans cette semaine, eh bien, j'ai vu des choses. J'ai voulu mettre la vidéo, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile? J'ai vu des choses qui sont aberrantes dans le milieu, entre guillemets, chrétien. Des choses que l'on voit. J'ai eu l'occasion de chatter avec une personne qui a quitté notre église ici, une dame, et j'ai réussi à renouer le contact avec elle par Facebook et par un chat, et tout ce qu'elle me dit, ça m'attriste. Ça m'attriste. Et en fait, l'objectif de mon prêche ce matin, c'est de pouvoir aller au-delà et ou de pouvoir faire prendre conscience de ce verset qui dit, dans Osée 4:6, c'est un verset qui est souvent un peu galvaudé. On le dit comme ça, bah oui, faute d'enseignement, mon peuple périt. On en entend plein de chrétiens dire ça, ouais, bah faute d'enseignement, mon peuple périt ou est détruit. Mais si on prend vraiment la teneur de ce verset, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et lorsque j'ai reçu ce thème de dire, voilà, je vais prêcher sur le bien et le mal, c'était surtout dans le sens de la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisqu'il y a cette démarche de dire non, j'en veux pas de cette connaissance, moi aussi je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Cette dame avec qui j'ai chatté, c'est pour moi difficile d'entendre ce qu'elle m'a dit parce que c'est quelqu'un que j'essayais d'exhorter, que je suivais, j'essayais de lui enseigner des choses. Et en fait, eh bien, elle m'a annoncé qu'elle quittait son mari. Elle quitte son mari. C'est une chrétienne et elle quitte son mari. Et j'ai voulu lui dire, j'ai voulu la ramener un peu dans cette connaissance de la parole en disant, ben voilà, la parole, elle dit que. Et en fait, elle, c'est tout simple. Elle dit, ben moi, j'aime plus mon mari, donc je le quitte. Elle est vraiment dans ce souci de dire, ben je m'occupe de moi-même et puis en fait, ben je rendrai des comptes à Dieu, peu importe. Parce que c'est ça son chat. Ce qu'elle m'a dit, c'était, voilà, moi j'ai des démarches, je suis une femme, je dois prendre soin de moi. D'abord moi. Et après, je prendrai soin de ma foi. Bon, je dois continuer à être une bonne mère, je ne serai plus une bonne épouse parce que je quitte mon mari. Et en fait, j'ai essayé de lui dire, bah, écoute, prends conscience. Et pendant un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu as toujours ta foi en Dieu? Est-ce que tu as toujours cette foi en Dieu? Est-ce que tu crois toujours que la parole est la parole de Dieu? Elle m'a répondu, oui, j'ai toujours ma foi en Dieu, mais je suis une femme, donc je dois prendre soin de moi. Bon, là, j'ai trouvé du travail, elle est contente, elle a trouvé un CDD, etc. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais voilà, cette connaissance, elle n'est plus là. Elle a perdu cette connaissance. Je ne dis pas qu'elle l'a perdue complètement, mais une grosse partie elle n'est plus là. Elle me disait, voilà, je suis une femme, je dois prendre soin de moi. Mon mari, je ne l'aime plus, donc je ne vois pas pourquoi je resterai avec lui, je le quitte. Et c'est là où... Quand on prend ce verset qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », c'est là où ce verset prend toute sa teneur. C'est qu'aujourd'hui, on voit ou on entend des choses, même dans le milieu chrétien, qui ne sont pas fondées, qui n'ont pas cette teneur véridique, cette vérité, cette justice que Dieu veut nous inculquer et tout ce qui est dans sa parole. Et ça, je pense que c'est important. C'est important de pouvoir toujours être dans cette notion de dire « Ok, moi je dois me tenir debout devant Dieu, mais aussi dans sa connaissance. » Et la connaissance, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a une parole que j'ai entendue, que j'ai appréciée. Bon, c'est tout bête, hein, mais il y a une parole qui dit « Un bol qui est renversé ne peut pas être rempli. » Logique. S'il est renversé, on ne peut pas le remplir. Mais quelque part, l'image, elle est vraie aussi pour un chrétien. Quelqu'un qui est renversé, où le diable a pu venir, il a pu mettre ses traits enflammés, comme dit la parole, et qu'il a pu renverser un chrétien, forcément le chrétien ne pourra plus être rempli. Parce qu'il est chamboulé, il est détruit par le diable. Et le but du diable, c'est ça aujourd'hui. C'est de pouvoir vous détruire, vous et moi. Et c'est vrai que des fois, quand on a des semaines qui sont difficiles, comme vient de le dire Vincent, comme moi je l'ai vécu, mais quelque part, c'est entre guillemets le cycle de la vie, c'est de pouvoir toujours rester un bol qui va rester à être rempli. On a besoin d'être rempli. On a besoin d'être rempli de la connaissance de Dieu. On a besoin de continuer. Et c'est là où je veux vous encourager. C'est là où je veux nous encourager. Parce que moi, le premier, j'ai besoin d'être rempli. Moi, le premier, j'ai besoin de rester toujours devant Dieu et de pouvoir, des fois, dire, Seigneur, voilà, ça, je le sais pas, ou ça, je le sais, mais j'ai besoin que tu me donnes la connaissance un peu plus poussée parce que je veux continuer à grandir en toi. Ce matin, souvent, quand je prêche comme ça, je me lève très tôt le matin, le dimanche, et je prie avant de continuer à préparer mon prêche, parce que je finalise mon prêche le dimanche matin. Et ce matin, ça a été ma prière, ça a été de dire, mais Seigneur, moi je veux continuer à grandir en toi. C'est pas parce que je prêche, c'est pas parce que c'est moi qui suis avec un micro autour de la tête, c'est pas parce que c'est moi qui ai une belle chemise, une belle veste de costume, c'est pas parce que c'est moi qui suis derrière un pupitre, c'est pas parce que c'est tout ça que je suis supérieur aux autres. Au contraire. J'ai envie, j'ai soif, j'ai faim de pouvoir grandir en Dieu et de pouvoir en connaître encore plus. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez envie de ça réellement? Est-ce que vous avez envie que, en tant que peuple de Dieu, on puisse être une armée puissante qui a envie, qui veut rester dans cette connaissance, qui veut rester debout dans ses bottes pour pouvoir continuer à marcher avec Dieu et pour Dieu et avec Dieu? On a ce privilège. Ce matin, tout ce qu'on a pu entendre de la bouche de Christiane, mais c'était tellement vrai. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai qu'on a un grand Dieu. On a un Jésus qui est avec nous, qui nous dit dans la Bible, il nous dit, mais vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours. Mais nous, on a une démarche à faire à côté de ça. On a une démarche à faire. C'est de pouvoir toujours continuer à être aux aguets et de pouvoir continuer. Et c'est là où Pierre va zapper. Parce que Matthieu 28, 20 nous dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ce sont les deux derniers versets du livre de Matthieu. Les deux derniers versets. Enseignez-leur à observer. On a tous une tâche. C'est pas parce que c'est moi qui suis sur l'estrade ce matin que je suis supérieur. Je l'ai déjà dit, je le répéterai, peu importe. Mais au contraire, je pense qu'ici, tous, on a une tâche. Vous avez une tâche, j'ai une tâche. Et une tâche qui est importante, c'est que Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et pour ça, il le dit là. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Enseignez-leur. L'enseignement est quelque chose qui est super important. On vient de lire juste avant dans Osée 4, faute d'enseignement, faute de cette connaissance, eh bien, mon peuple périt. Alors Jésus, là, lui, il vient et puis il dit, voilà, maintenant, moi, je vous ai montré l'exemple. Je viens du ciel, j'ai la parole de Dieu en moi. Je vous ai inculqué des choses. Maintenant, c'est à votre tour. Il nous a délégué quelque chose. Il nous a dit, voilà, c'est votre tour d'enseigner et observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, il y a deux démarches. Elles sont flagrantes. Elles sont écrites noir sur blanc dans la Bible. Enseignez-leur et observez. Parce que vous pouvez toujours enseigner à n'importe qui, n'importe quoi. Vous pouvez enseigner quelque chose. Si cette personne va entendre ce que vous lui dites et qu'elle n'est pas prête à observer ce que vous leur dites, moi, quand je dis à mes enfants de faire quelque chose, j'aime bien que mes enfants m'obéissent. Quand je dis à l'un ou l'autre, peu importe, je leur dis « mettez la table », par exemple, eh bien, il faut qu'ils mettent la table. C'est-à-dire que je vais leur enseigner comment déjà on met la table, où est-ce qu'on trouve les assiettes, les couverts, les verres, etc. Et après, je vais leur dire « maintenant, tu mets en pratique, tu observes ce que je t'ai appris, tu vas mettre la table ». Il y a à la fois un enseignement, il y a une observance, C'est-à-dire que mes enfants obéissent. Et c'est là où la notion est importante. C'est l'obéissance. Et je pourrais faire un prêche, et je l'ai déjà fait ce prêche, sur l'obéissance. Mais quelque part, on pourrait prêcher longtemps sur l'obéissance. Parce que c'est un point qui est tellement important. Tellement important parce que Jésus, c'est ce qu'il nous a dit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer. Il n'a pas dit simplement « enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit ». Il a dit « enseignez-leur à observer ». Donc non seulement ils doivent enseigner la doctrine entre guillemets de Jésus, mais on doit enseigner à observer la doctrine de Jésus. Ça va encore plus loin dans la démarche. Elle est forte cette phrase. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, si vous enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit, je suis avec vous là, moi je suis là, donc peu importe. Des fois vous allez chuter, vous allez faillir dans votre tâche, mais moi je suis là, je suis avec vous. Il n'y a pas de souci avec ça, je suis avec vous. Continuez à grandir. C'est vrai ce que disait Christian ce matin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ce verset, là aussi, c'est un verset. On a trop tendance des fois à galvauder des versets. On les balance un petit peu comme ça à la fin d'une phrase. Oui, bah Dieu a dit. Mais est-ce qu'on prend vraiment conscience? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est vrai. Je n'avais pas prévu de parler de ce verset dans mon prêche. Mais dans l'observance de ce que Dieu ou ce que Jésus nous a inculqué, eh bien, c'est une promesse qui est magnifique. Elle est magnifique. Cherchez. C'est une démarche personnelle. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Il y a une émission en ce moment à la télé qui passe. Ce sont des... Bon, je pense que ce sont des milliardaires, tous ces gens-là. Bon, bref, peu importe. Mais ils récupèrent des containers. Vous savez, sur les bateaux, il y a des containers. Et des fois, il y a des containers qui ne sont pas réclamés. Et en fait, ils les vendent aux enchères. Donc, il y a un gros pari. Il y a le gros pari de dire, moi, je vais miser sur un container. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ils ouvrent les portes. Ils n'ont pas le droit de rentrer. Ils ont juste à observer ce qu'il y a dedans. Et ils essaient de se faire un petit aperçu en disant, tiens, là, le carton qui est là-bas, il y a peut-être un truc dedans. Ça serait pas mal. Et puis après, ils vendent aux enchères. Ils misent. Ils vont miser sur le container sans savoir ce qu'il y a dedans. Mais nous, on a cette notion en tant que chrétien, c'est de pouvoir miser sur quelque chose dont on sait ce qu'il y a dedans. Et donc, notre mise, elle doit être encore plus importante. On doit y mettre toute notre vie dans cette mise. Moi, je suis sûr que si on a vraiment cette connaissance qui nous empêche de périr, si on a cette connaissance et on sait tout ce que la parole nous dit, toutes ces promesses, il y en a plus de 3000 promesses dans la Bible, eh bien, on doit miser notre vie. Ce n'est pas simplement de l'argent qu'on doit miser. C'est aussi l'argent. Mais ce n'est pas que. Et ça, c'est beau. On a vraiment un encouragement qui est là, où Jésus nous dit, mais allez-y, misez sur moi. Et vous verrez que si vous avez cette connaissance, si vous cherchez mon royaume, moi, je vous donnerai tout par-dessus tout. Ça va? Ouais? Vous avez besoin de bouger? Non? Ça va? Moi, ça me passionne. 2 Timothée 3,16. Ça, c'est un 3.16 qu'on a. Il y en a pas mal des 3.16 dans la Bible qui sont pas mal. Alors, il y a Jean 3.16, il y a 2 Timothée 3.16, il y a... Bon, comme ça ne me revient pas. 2 Timothée 3.16, elle est là. Ce verset est un verset que je vous encourage, non pas à le galvauder, mais à l'apprendre par cœur. Moi, quand j'ai fait l'école biblique à Mulhouse, c'est un des versets qu'on a dû apprendre par cœur. Parce qu'il est tellement vrai, tellement véridique. Et c'est une mise de départ qui nous permet d'avoir déjà une bonne caisse à outils. On est une bonne caisse à outils, là. Il y en a des bricoleurs, ici? Hormis, ouais? Non, toi, t'es pas bricoleur, Antoine. On n'a rien fait ensemble, on n'a pas fait l'Oasis ou avec Alex. Mais un bricoleur, il aime bien avoir une bonne caisse à outils. Moi, là, c'était à Noël dernier, j'ai mon fils qui m'a offert une belle caisse à outils. Et j'étais content, j'ai une belle caisse à outils, de la marque Stanley et tout, belle caisse à outils. Et après, on aime bien avoir, c'est pas le tout d'avoir une belle caisse à outils, on aime bien avoir les bons outils dedans. Non? Ouais? Alors ça peut être pour les femmes, une belle, alors je vais être sexiste, hein. Une belle boîte à couture. Non? Oui, j'ai une boîte à couture, qui dit autre chose? Un bon lave-vaisselle? Non. Non, c'est moi qui repasse. Bah, entre autres. Là, la caisse à outils, elle est là pour dire, dans ta caisse à outils, tu n'as pas beaucoup d'outils à mettre, tu en as un principal, c'est toute écriture. Toute l'écriture. On a une parole qui a 66 livres. Eh bien, les 66 livres, on les met dans notre caisse à outils. Alors, des fois, on se dit, bah, ce bouquin-là, pourquoi Dieu il l'a mis dans sa Bible? Là-dessus, c'est vrai. Hein. Des trucs, on se dit, mais pourquoi c'est dans la Bible, ça? Pas de hasard avec Dieu. Pas de hasard. Donc, ça, on balaye. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, voilà, ça confirme ce que je viens de dire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dans ta caisse à outils, tu vas mettre l'écriture, mais pas n'importe quelle écriture. Tu mets l'écriture de Dieu, donc sa parole, parce qu'elle est inspirée de Dieu. Donc, déjà, c'est une force. Déjà, ton outil, il est béni. Tu as un outil qui est loin. Alors, c'est vrai que je prends un tournevis. Alors moi, j'aime bien la marque Facom. Hein, donc, voilà, on est comme tout le monde. Hein, c'est garanti à vie. Si vous le pétez, ils vous le remplacent et tout. C'est génial. Pardon? Et un cruciforme ou un tournevis plat, eh ben, si on a une vis qui est large de ça, on n'aime pas avoir un tout petit tournevis plat. On aime bien avoir le bon outil qui convient. Mais là, on sait que, de toute façon, c'est inspiré de Dieu. Donc, forcément, l'outil sera bon. Il est utile pour enseigner. Et on y revient. Hop! On a fait un petit tour là sur nous-mêmes, on y revient. La Bible, elle est là pour enseigner. Après, elle est là pour convaincre. Et c'est le verset qu'on a lu juste avant qui disait, bah, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Elle est là pour enseigner et aussi pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a tout dans ce verset. Il y en a deux versets. Il y a tout dans ces deux versets. Ils sont tous là, il y a toutes les caractéristiques de l'écriture. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez ça dans votre caisse à outils, bah vous avez la caisse à outils de blinde. Elle est blindée. Vous faites ce que vous voulez avec votre caisse à outils. Mais après, si vous avez une caisse à outils, que vous n'êtes pas bricoleur. Eh ouais, moi je me souviens, mon fils qui un jour, je lui ai dit, bah, donne-moi un marteau, il m'a donné un maillet. Un maillet, c'est en caoutchouc, vous mettez ça sur un clou, vous ayez votre maillet plutôt qu'autre chose. Ou alors, et vous lui dites, ben, donne-moi la pince à un tel et il vous donne l'autre. Parce qu'il ne sait pas, il n'a pas cette notion d'utiliser la parole. Il n'a pas cette notion-là d'utiliser l'outil, le bon outil qui convient au bon moment. Je me souviens quand il était tout petit, Nicolas a toujours aimé les puzzles. Il avait peut-être un an ou deux, je faisais du carrelage, il prenait mes chutes, il faisait un puzzle avec mes pièces. Là, il avait envie de se faire un puzzle lui-même. Il avait compris que ça pouvait l'amuser, ça pouvait lui permettre de mettre des formes les unes dans les autres. Et bien, c'était impeccable. Il avait compris que avec un outil ou avec un matériau, on peut faire des belles choses. Et bien là, c'est ça votre caisse à outils. Elle est là. Faites-vous du bien pour ne pas vous faire du mal. Si vous avez la bonne caisse à outils, il n'y a rien de pire que de se taper sur les doigts avec un marteau. Par contre, si vous avez les protections, vous avez les gants dans votre caisse à outils, vous avez tout. Tout est là. Elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. J'ai passé du temps mardi au groupe Croissance à parler de ces deux versets, parce que pour moi, ils sont super importants. Ils sont super importants, ces deux versets. Apprenez-les par cœur. Apprenez-les par cœur. Ce ne sera pas de la perte de temps. Mais au moins, vous saurez, et vous pourrez dire des fois, quand le diable viendra pour vous donner des mauvaises semaines, ou des semaines difficiles, ou des semaines qui seront là, vous pourrez dire, ben non, moi j'ai la connaissance. Et Satan, t'as pas le droit de m'attaquer. T'as pas le droit de m'attaquer sur tel ou tel point, parce que moi j'ai la parole. Et cette connaissance, elle est en moi. Et je sais que comme elle est inspirée de Dieu, eh ben, elle est là pour m'éduquer. Elle est là pour m'enseigner. Elle est là pour m'exhorter. Elle est là pour me faire grandir, parce que je sais que je suis dans la justice de Dieu. Et à partir de là, comme Antoine l'a dit, hop, le diable, il s'en va. Il n'a plus rien à faire avec vous. Il n'a plus rien à faire. Antoine l'a vécu pendant cette période. Où il disait, mais je disais au diable, va-t'en au nom de Jésus, il partait. Parce qu'il n'a plus l'autorité sur nous. Il n'a plus l'autorité sur nous. Il n'a pas l'autorité sur nous. Il n'a plus aucune autorité sur nous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a Jésus avec nous. On a Jésus avec nous. C'est lui qui nous a donné cette autorité. Quand il est mort sur la croix, il a donné l'autorité à tous les chrétiens pour pouvoir avoir cette autorité sur le diable et être vainqueur. Mais non seulement ça, on est vainqueur, mais on est plus que vainqueur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous êtes toujours avec moi? Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs, donc ça c'est Jésus, qui avaient cru en lui. Donc il y a des Juifs à l'époque quand Jésus parlait, ben des Juifs qui venaient à Jésus, qui donnaient leur vie à Jésus, qui revenaient à Dieu. Je ne dis pas que les Juifs ne sont pas en Dieu, attention, mais les Juifs ne croyaient pas au Messie, ou ils l'attendent toujours. Ils ne croyaient pas en Jésus. Donc là, il y a des Juifs qui croient en Jésus, qui deviennent, comme on dit, messianiques quelque part. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je ne vais pas plus loin. Si vous restez, si vous demeurez, si vous êtes là, les pieds joints sur ma parole, sur le fait d'avoir des fondations qui soient du roc, vous êtes mes disciples. Et quand Jésus nous dit, mais allez, faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'enseigner les gens. Avoir un enseignement qui soit fondé sur la parole. Parce qu'un disciple, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une stature qui est fondée sur des bonnes bases. Et c'est pour ça. C'est pas un hasard si ici au Phare, on a plusieurs groupes de fondamentaux. Vous avez chez Chanel et Alex, vous avez Christiane qui en fait, il y a Patrick qui en fait un, il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Il y a le groupe Croissance que je fais le mardi soir, ou d'autres, hein, puisque Sandy et Paul et Patrick l'ont fait également, Antoine aussi. C'est pas pour rien qu'on est là pour dire venez aux enseignements. Venez, on va partager ensemble. Venez, on va en parler et on va faire en sorte de grandir ensemble. Moi, je le dis, j'hésite pas à le dire. Quand je fais le groupe de croissance, je leur dis, mais c'est pas parce que je suis devant vous que je sais tout. Je suis là aussi pour apprendre. Et quand on discute, des fois, il y a des choses qui me disent, ben oui, c'est vrai, tiens, tac, tac, et on prend des versets, on étudie ensemble. Et ça nous permet de grandir. Ça nous permet d'avoir une stature de disciple. Parce que mon but, c'est que tous ici, nous puissions, et notre but, tous à chacun, c'est d'avoir cette stature de disciple. Et j'ai envie de ça. Parce que c'est là où on va voir les choses. C'est là où on va commencer à rentrer dans l'œuvre de Dieu. C'est là où on va commencer à rentrer dans tout ce que Dieu nous a promis. Toutes ces promesses qui sont là, qui nous ont dit. Il nous dit, mais bon sang, mais j'ai tous ces dons pour vous. Là, ils sont là. Je les ai listés dans la parole. Ils sont là, ils sont pour vous. Si vous êtes vraiment dans ma parole, si vous êtes dans ma justice, ces dons, ils sont pour vous. Vous allez pouvoir les utiliser. Et vous allez pouvoir vivre des miracles, des prodiges. Vous allez voir des guérisons, des malades qui vont se lever de leur chaise roulante. Vous allez voir des morts ressuscités. Eh bien, moi, j'ai envie de ça. Et là, j'aurais dû avoir une foule de amen. En tout cas, moi, je me le dis à moi-même. Amen, Fred. Comme disait un prédicateur que j'ai écouté cette semaine, je vais m'amener moi-même. Ça va? Il s'est amené lui-même. Amen, Fred. Ouais, vas-y. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité... C'est bon, non? Eh. Vous n'avez pas envie de ça? Ouais, j'ai que Francis. Ouais, Francis. La vérité vous affranchira. C'est quoi vous affranchir? C'est nous rendre libres. L'affranchissement, c'est rendre libre. C'est pas mettre un timbre. D'accord? C'est nous rendre libres. L'affranchissement, c'est nous rendre libres. L'affranchissement, c'est vous rendre libres. L'affranchissement, c'est nous rendre libres. Libre de quoi? Et là, je vous laisse y répondre pour votre vie à vous. Vous avez vu un peu la pirouette de Fred? Je suis champion du monde de pirouette. Bon, ça se voit pas, hein, mais je suis champion du monde de pirouette. Vous me verriez sur le trampoline à la maison? La vérité vous affranchira. Et vous rendra libre de quoi? Mais on a tous dans notre tête. Si je vous dis là maintenant, allez, pense à ton gros défaut. Boum, vous avez tous un défaut là qui arrive. Voilà, vous êtes vraiment orgueilleux. Et là, on va prier pour vous. Ben moi, j'ai du mal à en trouver un. Non, c'est vrai. La parole, elle est claire. Elle est écrite noir sur blanc. On a un livre qui a passé des milliers d'années, qui nous est arrivé à nous et qui est resté tel quel. Et grâce à cette parole-là, on peut avoir des victoires. On peut avoir des guérisons. On peut avoir des miracles. On peut avoir des bénédictions, mais terribles dans nos vies. On peut voir des choses grandioses. On peut voir des choses surnaturelles. Des choses surnaturelles. Quand on lit des expériences dans la Bible, comme David qui va tuer un géant de 3 mètres, on se dit, mais bon sang, c'est pas mal quand même. Ouais, mais attends, j'ai plus fort encore. Samson, parce qu'il s'est laissé pousser les cheveux, il avait une force herculéenne. Pourquoi? Parce que sa force était dans ses cheveux. Bizarre quand même, non? C'est surnaturel. Des fois, on a tendance à se dire, mais pourquoi Dieu il a mis sa force dans ses cheveux? Quand vous voyez Moïse qui a ouvert une mer en deux, là, vous commencez à vous dire, bah, zut quoi. Parce qu'ils étaient fondés sur la parole de Dieu, ils étaient fondés sur ce que Dieu leur disait. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la Bible. Hein. Ils n'avaient pas la Bible hein, à l'époque de l'Ancien Testament. Mais Dieu leur parlait directement. Ils avaient les cinq premiers livres, et encore, Moïse non. puisque c'est lui qui a eu. Mais ils ont été fondés sur la justice de Dieu, ils étaient fondés sur cette espérance, sur cette foi. La foi était déjà là. Et moi, j'ai envie de voir ça aujourd'hui. J'ai envie de voir des choses comme ça aujourd'hui. Mais on en voit déjà. Quand on entend certains témoignages, j'ai encore eu des témoignages cette semaine, et la personne m'a dit, Fred, tu ne me fais pas témoigner dimanche. Hein. Mais voilà, c'est bien, parce que moi, ça, je me réjouis avec cette personne. Elle vit des choses qui sont superbes. Et je lui ai dit, mais écoute, c'est super ce que tu vis. J'aime ça. J'aime ça. Quand on voit Antoine, tout ce qu'il nous a partagé, c'est beau. On voit des belles choses. Et on va en voir de plus en plus. Parce que Jésus nous l'a dit. Jésus veut qu'on vive ça. Mais pour ça, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est beau. Juste deux images, parce que c'est là aussi où le danger est. Il y a un danger. C'est que des fois, on n'a pas la même perception chacun des choses. Et cette personne avec qui j'ai chatté, qui me dit, ben voilà, moi, pas de souci, mon mari, je l'aime plus, ben je le quitte. Hein. Aujourd'hui, le diable, il faut savoir que le diable essaye de détruire les couples. C'est pas qu'il essaye d'ailleurs, pour beaucoup, il y arrive, ce qui est dommage. Et c'est pour ça que je vous encourage à prier pour les couples dans la famille. On prie le mardi matin quand on est à l'intercession, et je suppose aussi le vendredi soir, il y a des prières envers les couples. Mais parfois, il y a une perception des choses, même si c'est écrit noir sur blanc, le diable peut faire en sorte que vous ayez des écailles devant les yeux qui vont vous empêcher d'avoir la bonne perception des choses. Et cette image, elle est vieille, c'est une vieille image. Il y a deux choses, soit on voit une vieille dame, soit on voit une jeune dame. Moi, j'ai tellement l'habitude de la voir, je vois les deux. Mais voilà, parce que après c'est une habitude. La perception des choses, eh bien, elle est selon ce que vous allez avoir. Alors après, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est le cerveau droit, le cerveau gauche, le cerveau lent, etc. Voilà, tout ça. Alors, on va faire un petit sondage. Qui a vu la vieille dame? Qui a vu la jeune? Allez, c'est à peu près kiff. Il y a plus de vieilles dames quand même. Ouais, attention, parce que... Ceux qui ont vu les vieilles dames, attention, des fois elles ont un bâton. Ouais, moi je vois. Bon, je ne vais pas vous la détailler, mais la jeune, on ne voit que son menton. Elle est tournée comme ça. On voit son menton comme ça, on voit son profil comme ça. D'accord? Ok, et puis la vieille dame, eh bien, on voit sa bouche et puis on voit son nez. Son nez, c'est le menton de la jeune dame. D'accord? La perception des choses est importante. Et c'est là où, et je reviens à ce que disait Roy Ralph la semaine dernière, quand il a prié pour tous les responsables qui étaient là, il a dit, voilà, vous les responsables, il a prophétisé, il a dit, Dieu va vous armer de sagesse et de discernement. Et bien moi, cette prophétie, je la garde, parce que ça fait longtemps, même si j'arrive à avoir un peu de discernement, et bien ça fait longtemps que je prie, souvent dans mes prières, je dis, Seigneur, donne-moi du discernement, donne-moi de la sagesse, parce qu'on en a besoin. Quand on est responsable, qui que ce soit, mais même dans l'Église, on a tous besoin de sagesse et de discernement pour pouvoir avoir une perception des choses qui est conforme à ce que Dieu veut. On va changer d'image parce que je vois qu'il y en a qui ont décroché, ils sont toujours sur le truc. Alors moi, je vois même pas une dame. Moi, je vois un cochon d'Inde. Ben non. La perception des choses. Là, si on va pas dans le même sens, tous... Eh bien, le jour où on va se retrouver devant un 9 ou un 6, eh bien, en fonction du sens dans lequel on sera, eh bien, on verra un 9 ou un 6. D'où l'intérêt d'aller tous dans le même sens. Et le sens, il est clair. Il est très net. Le même sens pour chacun, c'est d'être fondé dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Parce que si on vous enseigne les choses qui sont justes et bonnes, eh bien, on sera des disciples de Jésus-Christ. Et à partir du moment où on sera des disciples de Jésus-Christ, eh bien, voilà, on aura tout gagné parce qu'on verra des belles choses. C'est pour ça que je veux vous encourager. Je veux vous encourager ce matin à vous dire, rentrez dans l'enseignement. Pas que ça. Ne faites pas que ça. Rentrez dans la prière. Mais rentrez dans l'enseignement. Prenez votre Bible, ouvrez-la. Je ne dis pas que vous ne l'ouvrez pas, attention. Hein. Mais ouvrez-la. Et puis commencez à lire. Et demandez, dites, Seigneur, avant que je parte dans la lecture de ma parole, donne-moi de l'éclairage. Que mes yeux deviennent des phares. Pour que je puisse voir la lumière qui est dans ta parole. Pour que je puisse découvrir des trésors et des secrets. Et à partir de là, vous verrez, Dieu va faire en sorte que vous puissiez voir des choses et retenir des choses. Moi, mon gros défaut pendant longtemps, ça a été de ne pas pouvoir retenir des références. Des versets, je les connais, et c'est vrai qu'encore maintenant, j'ai encore un peu de soucis, mais Dieu me change. Et j'arrivais pas à retenir les versets. Je disais, mais c'est où ça? Et maintenant, j'y arrive un peu mieux, parce que je prie pour ça. Je prie pour ça. La dernière dia. Matthieu 9, 35 et 38, et après je vais m'arrêter. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. La plupart du temps, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de Jésus qui prêche, on parle de Jésus qui enseigne. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On a besoin d'ouvriers. Je termine par un petit témoignage. Pas petit, parce qu'il n'y a pas de petit témoignage. J'ai un collègue, là, donc, comme je vous disais, je fais la foire d'Amiens, et je suis avec un collègue, Thomas il s'appelle en plus. C'est ça qui est bien. Et je lui ai témoigné de ma foi. Il y a une quinzaine de jours, je lui ai dit, voilà, écoute, tac, tac, et puis je lui ai expliqué que j'étais chrétien, etc. Il me dit, moi, j'aimerais bien t'entendre prêcher, j'aimerais bien venir, etc. Je dis, oui, bon, Amiens, ça fait une trotte, puisqu'il habite Amiens. Et puis, au fur et à mesure, il a une soif. Il me pose des questions. Hier, midi, on était devant une assiette de couscous, tous les deux. Et à un moment, je ne sais plus, on parlait du boulot. Il me dit, de toute façon, moi, je suis comme ça, Thomas, je crois que ce que je vois. Et voilà, il me lance des petites piques comme ça. Enfin, pas des piques, mais il me lance des petites perches. Et quelque part, cette perche, il n'en était même pas conscient. Et donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais pourquoi on dit ça? Et donc, je lui ai expliqué le principe de Saint Thomas, qui croit que ce qu'il voit. Elle me dit, non, je ne savais pas. Elle me dit, mais c'est une expression qu'on utilise tous les jours, pour beaucoup. En plus, il s'appelle Thomas, donc forcément. Ben, je dis, ben oui, mais maintenant, au moins, tu le sauras. Si on n'a pas la connaissance de la parole sur des petits détails comme cela, comment est-ce qu'on peut aller toucher des cœurs? On doit. Alors, bien évidemment, il y a l'onction de Dieu. On va toucher par le Saint-Esprit. Mais on a aussi besoin de pouvoir enseigner des choses qui sont de la bonne viande. La bonne viande, là. Bon, lui, c'est dommage, il n'aime pas la viande. Mais que je puisse lui donner de la bonne viande pour qu'il puisse avoir soif. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. Tout simplement parce que moi, ce que je veux maintenant, c'est qu'on puisse vraiment prier. Et qu'on puisse, comme je disais tout à l'heure, cette parole qu'Antoine a donnée, ce n'est pas un hasard.